Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonsoir. La promotion de l'agrivoltaïsme n'est pas une priorité pour le canton du Jura. Cette technologie qui consiste à produire de l'énergie solaire sur des champs est déjà soutenue par la Confédération. Le gouvernement préfère privilégier la pose de panneaux sur les toits existants. Le protocole de fissures Bas-Semplain en Haute-Saône. Plus de 1500 bâtiments doivent être examinés dans le cadre du projet de géothermie profonde. Un processus critiqué par certains, mais défendu par son responsable. Vous faites peut-être partie des chanceux qui ont eu congé ce lundi de Saint-Martin. Il ne s'agit pas d'un jour férié officiel, mais d'une particularité régionale. Particularité qui fait l'objet d'un système de compensation au sein de l'État. Les prochaines heures s'annoncent très humides sur la région. Des pluies parfois abondantes sont attendues jusqu'à demain soir. Le vent sera toujours au rendez-vous. Il n'est pour l'heure pas envisagé de mettre en place une promotion particulière pour l'agrivoltaïsme dans le Jura. Les autorités fédérales agissent déjà en la matière. C'est en substance ce qui ressort du rapport du gouvernement suite à une motion de Gauthier Corba acceptée sous la forme du postulat en décembre 2022. Le député du centre demandait à l'exécutif de tout mettre en œuvre pour faciliter le développement de l'agrivoltaïsme sur le territoire jurassien. Technologie qui combine l'agriculture et la production d'énergie solaire sur une même surface. Les précision d'Émilie Charmillot.
Le gouvernement jurassien indique entre autres que les infrastructures agricoles comptent encore de multiples surfaces de toits qui peuvent accueillir des panneaux solaires. Il s'agit de les recouvrir en priorité. L'exécutif constate avec satisfaction qu'au niveau fédéral, des décisions sont prises pour favoriser l'agrivoltaïsme. Le Conseil fédéral a introduit une nouvelle base légale en juillet 2022. Les normes strictes sur l'aménagement des zones agricoles ont ainsi été assouplies. Pour faire simple, les installations agrivoltaïques sont autorisées en dehors de la zone à bâtir sous certaines conditions. Une autre disposition entrera prochainement en vigueur pour encore faciliter le développement de cette technologie. Les autorités cantonales n'ont pas d'action à mener dans ce domaine, estime l'exécutif.
Le rapport du gouvernement souligne encore que le frein principal au développement de l'agrivoltaïsme proviendrait de la rentabilité. Il note aussi que les mécanismes de soutien financier ne sont guère adaptés. Camille Rebetet va quitter le Théâtre du Jura. L'actuelle responsable de la médiation culturelle a présenté sa démission pour le 31 janvier 2024. Selon un communiqué du Théâtre du Jura, en place depuis 3 ans, il souhaite se réorienter vers d'autres activités liées à l'écriture et à la pédagogie. Pour pallier ce départ, la Fondation a nommé Lydia Besson, qui entrera en fonction le 1er février. Elle connaît bien l'institution puisqu'elle y occupe le poste de médiatrice culturelle depuis 1 an et demi. Un protocole de fissure simple, mais qui fait parler de lui. Plus de 1500 parcelles doivent être visitées en amont du projet de géothermie profonde en Haute-Saône afin de déterminer l'état des bâtiments avant les premiers forages. L'objectif est de mesurer concrètement les dégâts causés par un éventuel tremblement. Pour le responsable de ce protocole, Manuel Lachat, il est important de préciser que les 3 bureaux mandatés ne sont aucunement liés aux promoteurs du projet, même si de nombreuses critiques leur sont adressées. Les explications de Loïc Georgie.
Malgré les voix de certains opposants qui s'élèvent pour dénoncer un manque de professionnalisme de la part des personnes qui effectuent ce relevé, Manuel Lachat affirme qu'elles ont toutes les capacités nécessaires. Elles travaillent dans le bâtiment et ont suivi une formation. Le chef de projet pour ce protocole parle même d'un processus assez simple.
On ausculte façade par façade. Ici, on a un bâtiment qui a 4 façades. Elles sont dénommées par des lettres A, B, C, D. Alors, on va commencer par la façade A. Voilà, on a une petite fissure ici. Alors, j'ai une petite échelle qui me permet de mesurer les fissures de 5 centièmes jusqu'à plusieurs millimètres ou centimètres d'épaisseur, d'écartement de ces fissures. Et puis là, ben, je mesure 5 dixièmes d'épaisseur et autre chose. Je mesure aussi la longueur de cette fissure. Et puis, pour documenter cette fissure, je prends une photo tout d'abord globale de la façade, haute résolution, et puis après, spécifiquement, j'attache une photo de cette fissure à ma façade A. Et puis après, on va passer à la façade B.
Un processus qui, expliqué comme cela, peut paraître assez simple, trop peut-être selon certains habitants qui se plaignent aussi du fait que les experts ne mesurent pas précisément au-delà des 2 mètres de haut. Mais là encore, Manuel Lachat a une explication.
C'est les fondations qui sont les plus touchées et ben, l'ébranlement viendrait du sous-sol et puis c'est les premiers mètres de fondation qui sont touchés par cet ébranlement.
Certaines personnes ont peut-être été surprises également que les experts soient venus visiter leurs extérieurs en leur absence. Or, selon la convention, signée par les propriétaires. Elle stipule qu'en cas d'absence, les experts peuvent tout de même faire leur travail. D'autant plus que ce protocole ne concerne que l'extérieur. Manuel Lachat.
C'est à l'extérieur que les fissures peuvent s'aggraver. Et c'est une évidence que si une fissure s'est aggravée à l'extérieur, à l'intérieur, le propriétaire pourra faire valoir aussi des dommages qui se seraient produits suite à ces branlements ou ces ondes sismiques. Pour les bâtiments avec isolation périphérique, il n'y aura aucune fissure et c'est clair qu'on devra intervenir à l'intérieur, prendre rendez-vous avec le propriétaire pour faire un constat des fissures de l'étage du rez-de-chaussée.
Et encore une précision de la part de Manuel Lachat, toutes les matières ne sont pas évaluées.
On se focalise surtout sur les aspects de maçonnerie, les parois éternites ou bien les parois de bois, finalement, ne font pas partie de la fondation. Et c'est illusoire de vouloir relever toutes les fissures du bois vieillissant parce que ça ne représente rien du tout. C'est surtout les fondations du bâtiment qui nous importent.
Une fois toutes les données ramassées sur le terrain, elles sont comptabilisées dans une application qui produira ensuite un rapport. Rapport qui pourrait s'avérer très utile, Manuel Lachat.
C'est un document qui pourra être mis en avant s'il devait y avoir des soucis, des dommages par la suite. On aura un état zéro et puis on aura finalement un autre rapport avec éventuellement des dommages si ça devait mal se passer au niveau des forages.
Si les premiers coups de pelle ont été donnés sur le site, les travaux de forage ne devraient pas débuter avant la fin du protocole de fissure, donc pas avant le printemps.
Un dossier réalisé par Loïc Georgi, Emmanuel Lachat affirme que la tension est palpable sur le terrain. Il a été victime notamment de menaces. La résistance aux antibiotiques tue 1,3 million de personnes chaque année dans le monde. La Suisse applique depuis 2016 une stratégie commune au secteur médical, vétérinaire et environnemental. La Confédération a fait le point aujourd'hui à l'occasion de la Semaine internationale pour un bon usage des antibiotiques. La prescription de ces médicaments a diminué ces dernières années, mais il faut continuer d'agir à tous les niveaux, insiste la Confédération. Le canton de Vaud a par exemple créé un guide pratique pour les établissements médico-sociaux. Les précisions d'Alessandro Cassini, médecin cantonal.
C'est un petit livret facile à mettre dans la blouse blanche, par exemple, qui aide le professionnel de la santé à prendre en charge de manière sécurisée et identifier l'infection chez un résident. Et puis, à travers des approches basées sur des algorithmes, le professionnel de la santé peut décider quelle est la prochaine mesure à prendre. Est-ce qu'effectivement, il faut un diagnostic ou est-ce qu'effectivement, il y a une infection? Alors, quel type de traitement antibiotique on va entreprendre et pour combien de jours, à quelle dose, etc. Ou même, il y a des résidents qui rentrent de l'hôpital et est-ce qu'il faut les dépister ou est-ce qu'il ne faut pas les dépister pour certains types de maladies et d'infections.
Et vous avez un retour positif aussi sur cet outil?
En effet, tellement positif. Alors, il existe depuis un petit peu moins de 10 ans. La première mise à jour a été en 2018 et il y a eu plusieurs autres cantons romands qui ont décidé d'y participer. Et puis, dans cette mise à jour qu'on est en train de faire en ce moment, il y a tous les cantons romands qui participent. Il y a aussi Berne et il y a aussi Ticino qui est en train d'évaluer leur participation.
Des propos recueillis par Marie Viomier, environ 75% des infections résistantes aux antibiotiques se développent dans les hôpitaux ou les établissements de soins. Les précipitations de ces derniers jours ont augmenté le risque d'avalanche en montagne. Le danger est de 4 sur 5 dans les Alpes valaisannes, au-dessus de 2200 mètres. Le portail de la Confédération sur les dangers naturels alerte aussi sur les risques liés aux pluies abondantes. Une alerte de niveau 4 a notamment été lancée dans le Nord Vaudois et le Chablais. L'ONU devra cesser ses opérations humanitaires à Gaza sous 48 heures, faute de carburant. Mise en garde lancée aujourd'hui par les Nations Unies, le patron de l'Agence pour les réfugiés palestiniens a expliqué que deux de ses principaux sous-traitants pour la distribution d'eau avaient déjà cessé de travailler. Une cure de jouvence pour un bien unique à Seignelay-Gier. La Fontaine de la Paix est en pleine réfection. Elle a été créée en 1918 pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la seule Fontaine de la Paix dans le Jura et elle appartient à la commune ecclésiastique de Seignelay-Gier. L'objet n'est pourtant inscrit à l'inventaire, n'a été inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques que cet automne. La conservatrice à l'Office jurassien de la culture, Lucie Hubler.
L'occasion s'est présentée cette année puisque pour pouvoir accompagner financièrement les propriétaires d'un objet, c'est-à-dire pour pouvoir octroyer des subventions au titre des monuments historiques, l'objet, là, en l'occurrence une fontaine, doit rejoindre l'inventaire des monuments historiques. Pour plusieurs raisons, elle mérite de rejoindre cet inventaire des monuments historiques, son statut de célébration de la paix, mais aussi en raison de son importance dans le site. Elle est entourée d'autres monuments historiques. l'ancienne préfecture en face, l'église derrière, le temple juste de l'autre côté de la route. Donc c'est un joli trésor parce qu'en fait, elle est au cœur de Seignelégier qui constitue en plus un site ISOS d'importance nationale.
La commune ecclésiastique de Seignelégier a bénéficié d'un peu plus de 4000 francs de subventions cantonales et fédérales pour le chantier, de viser à près de 17 000 francs. C'est le petit bonheur de la plupart des travailleurs en Ajoie après le week-end de Saint-Martin, avoir congé le lundi, pendant que leurs concitoyens de la vallée de Delémont ou des Franches-Montagnes se rendent au travail. Il ne s'agit pas d'un jour férié officiel, mais bien d'une particularité régionale. Elle fait cependant l'objet de tout un système de compensation pour l'horaire de travail au sein de l'État. Les entreprises privées, elles, ont libre choix du régime à appliquer, mais pour le fonctionnaire dans les fêtes, le lundi de Saint-Martin n'est pas un privilège à Joulot, Jérémy Pignard.
Le fonctionnaire à Joulot n'a en effet pas plus de chance que ses collègues. Oui, les services cantonaux étaient bien fermés ce lundi en Ajoie, mais le reste du personnel de l'administration a un autre jour à poser au choix dans l'année, tout le monde sur le même pied d'égalité. Une particularité pour l'enseignement, là ce sont les écoles jurassiennes qui disposent toutes de 4 demi-journées chômées par année. Les écoles à Joulot utilisent une partie de ce solde pour le lundi de Saint-Martin. Les autres écoles du canton les posent à d'autres moments de l'année, certaines à des lendemains de fêtes du village, d'autres au lendemain de carnaval. Là encore, les écoliers à Joulot et leurs enseignants ne vont pas moins à l'école que les autres. Et selon le service des ressources humaines, ça ne coûte rien à l'État. Pour ces jours fériés non officiels, les collaborateurs doivent fournir des heures supplémentaires afin de compenser. Système ainsi résumé au service des RH, il n'y a rien qui est offert aux collaborateurs.
Et concernant les entreprises privées, c'est typiquement le jour pour lequel il n'y a pas de loi, avance le service de l'économie et de l'emploi. Certains peuvent aussi fermer sans payer. Les hérissons s'apprêtent à hiberner en cette période automnale, mais en dehors de l'hiver, ces petits animaux sont particulièrement actifs et il arrive qu'ils soient blessés et emmenés en urgence chez un vétérinaire. Mais les soignants ne sont habilités à s'occuper des animaux sauvages que s'ils obtiennent une autorisation préalable. Une situation problématique récemment dénoncée par la conseillère nationale Meret Schneider et la Société des vétérinaires suisses. Elle souhaite une modification de la loi sur la chasse, Violette Ferreira.
Lorsque l'on parle d'animaux sauvages, il faut faire la différence entre les petits mammifères et le gibier. Tous ne sont pas soumis aux mêmes lois, comme le détaille Sylvie Ludy, vétérinaire à Tavannes.
Il faut savoir qu'il y a deux types d'animaux sauvages. On a les animaux sauvages qui sont régis par la loi de la chasse, qui sont le gibier, et ça, c'est des animaux qu'on ne voit jamais dans nos cabinets. Nous, on soigne des animaux qui sont surveillés, qui sont protégés par la loi de la protection de la nature. Ce sont les hérissons, justement, écureuils, chauves-souris. Et là, la loi est quand même un peu plus souple pour nous.
Et en quoi ce serait intéressant de modifier cette loi du coup sur la chasse ? Est-ce qu'il y a un intérêt à enlever cette demande d'autorisation ?
Dans la modification de la loi de la chasse, la révision qui avait été refusée par le peuple, on aurait pu intégrer quelque chose qui fait qu'on puisse les soigner sans autorisation. Mais ça concerne encore une fois le gibier. Ce qu'on ne soigne quasiment jamais. Enfin, moi, je n'ai jamais soigné de ma vie. Renard, chamois, je ne sais quoi. Par contre, les petits animaux, hérissons, chauves-souris, etc., ne sont pas concernés par cette révision de la loi ou la motion qui est demandée.
Mais alors, quel est l'intérêt de modifier la loi sur la chasse si le hérisson ne fait pas partie des gibiers ? Carole Malik, juriste à la Société des vétérinaires suisses, y voit un lien avec des répercussions directes.
C'est en fait la loi sur la chasse qui interdit le traitement d'animaux sauvages de manière générale aux particuliers. Et en fait, les vétérinaires en ce moment sont traités comme des particuliers. Donc, ils n'ont pas le droit de traiter ou aussi de garder un animal sauvage, même s'il est en détresse. C'est pour ça qu'on attaque la chose au niveau de la loi sur la chasse.
Les petits mammifères restent une activité minoritaire des vétérinaires. Sylvie Ludy en recueille en moyenne 5 par mois.
Et les explications de Violette Ferreira concernant le soin apporté aux hérissons.
RFJ, il est 18h14.
Sport. Judo Jura combattra toujours en Ligue B la saison prochaine. Les judokas jurassiens ont assuré leur maintien lors des finales de promotion-relégation qui se sont tenues samedi à Neuchâtel. Après une défaite 8-2 face au JC Stade Lausanne qui militera aussi en LNB en 2024, Judo Jura a dominé deux équipes de première ligue, soit le JC Spiess 8-2 puis le Team Tessin 8-2. La formation jurassienne termine ainsi au deuxième rang de sa poule et sauve sa place au deuxième échelon national. A noter que l'équipe féminine de judo avait déjà terminé son championnat à la troisième place de première ligue, qui correspond également à la deuxième division nationale. Carlos Alcaraz a connu la défaite pour son premier match de tennis dans le cadre d'un Masters ATP. Le numéro 2 mondial espagnol s'est incliné 6-7, 6-3, 6-4 devant l'Allemand Alexander Zverev lors de la première journée du groupe rouge cet après-midi à Turin. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.